Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion, chapitre 2, suite. Nous venons de déterminer deux fonctions essentielles de la religion, et nous avons rencontré, au cours de notre analyse, des tendances élémentaires qui nous paraissent devoir expliquer les formes générales que la religion a prises. Nous passons à l'étude de ces formes générales, de ces tendances élémentaires. Notre méthode restera d'ailleurs la même. Nous posons une certaine activité instinctive. Faisant surgir alors l'intelligence, nous cherchons si une perturbation dangereuse s'ensuit. Dans ce cas, l'équilibre sera vraisemblablement rétabli par des représentations que l'instinct suscitera au sein de l'intelligence perturbatrice. Si de telles représentations existent, ce sont des idées religieuses élémentaires. Ainsi, la poussée vitale ignore la mort. Que l'intelligence jaillisse sous sa pression, l'idée de l'inévitabilité de la mort apparaît. Pour rendre à la vie son élan, une représentation antagoniste se dressera, et de là, sortiront les croyances primitives au sujet de la mort. Mais, si la mort est l'accident par excellence, à combien d'autres accidents la vie humaine n'est-elle pas exposée? L'application même de l'intelligence à la vie n'ouvre-t-elle pas la porte à l'imprévu et n'introduit-elle pas le sentiment du risque? L'animal est sûr de lui-même. Entre le but et l'acte, rien chez lui ne s'interpose. Si sa proie est là, il se jette sur elle. S'il est à l'affût, son attente est une action anticipée et formera un tout indivisé avec l'acte s'accomplissant. Si le but définitif est lointain, comme il arrive quand l'abeille construit sa ruche, c'est un but que l'animal ignore. Il ne voit que l'objet immédiat et l'élan qu'il a conscience de prendre est coextensif à l'acte qu'il se propose d'accomplir. Mais il est de l'essence de l'intelligence de combiner des moyens en vue d'une fin lointaine et d'entreprendre ce qu'elle ne se sent pas entièrement maîtresse de réaliser. Entre ce qu'elle fait et le résultat qu'elle veut obtenir, il y a le plus souvent, et dans l'espace et dans le temps, un intervalle qui laisse une large place à l'accident. Elle commence, et pour qu'elle termine, il faut, selon l'expression consacrée, que les circonstances s'y prêtent. De cette marge d'imprévu, elle peut d'ailleurs avoir pleine connaissance. Le sauvage qui lance sa flèche ne sait pas si elle touchera le but. Il n'y a pas ici, comme lorsque l'animal se précipite sur sa proie, continuité entre le geste et le résultat. Un vide apparaît, ouvert à l'accident, attirant l'imprévu. Sans doute, en théorie, cela ne devrait pas être. L'intelligence est faite pour agir mécaniquement sur la matière. Elle se représente donc mécaniquement les choses. Elle postule ainsi le mécanisme universel et conçoit virtuellement une science achevée qui permettrait de prévoir, au moment où l'acte est décoché, tout ce qu'il rencontrera avant d'atteindre le but. Mais il est de l'essence d'un pareil idéal de n'être jamais réalisé et de servir tout au plus de stimulant au travail de l'intelligence. En fait, l'intelligence humaine doit s'en tenir à une action très limitée sur une matière très imparfaitement connue d'elle. Or, la poussée vitale est là, qui n'accepte pas d'attendre, qui n'admet pas l'obstacle. Peu lui importe l'accident, l'imprévu, enfin l'indéterminé qui est le long de la route. Elle procède par bond et ne voit que le terme, l'élan dévorant l'intervalle. De cette anticipation, il faut pourtant bien que l'intelligence ait connaissance. Une représentation va en effet surgir, celle de puissance favorable qui se superposerait ou se substituerait aux causes naturelles, et qui prolongerait en action voulue par elle, conforme à nos voeux, la démarche naturellement engagée. Nous avons mis en mouvement un mécanisme, voilà le début. Le mécanisme se retrouvera dans la réalisation de l'effet souhaité, voilà la fin. Entre les deux, s'insérerait une garantie extra-mécanique de succès. Il est vrai que, si nous imaginons ainsi des puissances amies s'intéressant à notre réussite, la logique de l'intelligence exigera que nous posions des causes antagonistes, des puissances défavorables pour expliquer notre échec. Cette dernière croyance aura d'ailleurs son utilité pratique. Elle stimulera indirectement notre activité en nous invitant à prendre garde. Mais ceci est du dérivé, je dirais presque du décadent. La représentation d'une force qui empêche est à peine postérieure sans doute à celle d'une force qui aide. Si celle-ci est naturelle, celle-là s'en tire comme une conséquence immédiate. Mais elle doit surtout proliférer dans les sociétés stagnantes, comme celle que nous appelons aujourd'hui primitive, où les croyances se multiplient indéfiniment par voie d'analogie sans égard pour leur origine. La poussée vitale est optimiste. Toutes les représentations religieuses qui sortent ici directement d'elle pourraient donc se définir de la même manière. Ce sont des réactions défensives de la nature contre la représentation par l'intelligence d'une marge décourageante d'imprévu entre l'initiative prise et l'effet souhaité. Chacun de nous peut faire l'expérience s'il lui plaît. Il verra la superstition jaillir sous ses yeux de la volonté de succès. Placez une somme d'argent sur un numéro de la roulette et attendez que la bille touche à la fin de sa course. Au moment où elle va parvenir peut-être, malgré ses hésitations, au numéro de votre choix, votre main avance pour la pousser puis pour l'arrêter. C'est votre propre volonté, projetée hors de vous, qui doit combler ici l'intervalle entre la décision qu'elle a prise et le résultat qu'elle attend. Elle en chasse ainsi l'accident. Fréquentez maintenant les salles de jeu. Laissez faire l'accoutumance. Votre main renonce bien vite à se mouvoir. Votre volonté se rétracte à l'intérieur d'elle-même. Mais à mesure qu'elle quitte la place, une entité s'y installe, qui émane d'elle et reçoit d'elle une délégation. C'est la veine en laquelle le parti pris de gagner se transfigure. La veine n'est pas une personne complète. Il faut plus que cela pour faire une divinité. Mais elle en a certains éléments, juste assez, pour que vous vous en remettiez à elle. À une puissance de ce genre, le sauvage fait appel pour que sa flèche touche le but. Franchissez les étapes d'une longue évolution, vous aurez les dieux protecteurs de la cité, qui doivent assurer la victoire aux combattants. Mais remarquez que dans tous les cas, c'est par des moyens rationnels, c'est en se réglant sur des consécutions mécaniques de causes et d'effets qu'on met les choses en train. On commence par accomplir ce qui dépend de soi. C'est seulement quand on ne se sent plus capable de s'aider soi-même qu'on s'en remet à une puissance extra-mécanique, eût-on même placé dès l'abord sous son invocation, puisqu'on la croyait présente, l'acte dont on ne se sentait nullement dispensé par elle. Mais ce qui pourra tromper ici le psychologue, c'est que la seconde causalité est la seule dont on parle. De la première, on ne dit rien parce qu'elle va de soi. Elle régit les actes qu'on accomplit avec la matière pour instrument, on joue et l'on vit la croyance qu'on a en elle. À quoi servirait de la traduire en mots et d'en expliciter l'idée? Ce ne serait utile que si l'on possédait déjà une science capable d'en profiter. Mais à la seconde causalité, il est bon de penser parce qu'on y trouve, tout au moins, un encouragement et un stimulant. Si la science fournissait aux non-civilisés un dispositif qui l'assura mathématiquement de toucher le but, c'est à la causalité mécanique qu'il s'en tiendrait, à supposer, bien entendu, qu'il peut renoncer instantanément à des habitudes d'esprit invétérées. En attendant cette science, son action tire de la causalité mécanique tout ce qu'elle en peut tirer, car il tend son arc et il vise. Mais sa pensée va plutôt à la cause extra-mécanique, qui doit conduire la flèche où il faut, parce que sa croyance en elle lui donnera, à défaut de l'arme avec laquelle il serait sûr d'atteindre le but, la confiance en soi qui permet de mieux viser. L'activité humaine se déroule au milieu d'événements sur lesquels elle influe et dont, aussi, elle dépend. Ceux-ci sont prévisibles en partie et pour une large part, imprévisibles. Comme notre science élargit de plus en plus le champ de notre prévision, nous concevons à la limite une science intégrale pour laquelle il n'y aurait plus d'imprévisibilité. C'est pourquoi, aux yeux de la pensée réfléchie de l'homme civilisé, nous allons voir qu'il n'en est pas tout à fait ainsi pour sa représentation spontanée, le même enchaînement mécanique de causes et d'effets avec lequel il prend contact quand il agit sur les choses doit s'étendre à la totalité de l'univers. Il n'admet pas que le système d'explication qui convient aux événements physiques sur lesquels il a prise doive céder la place quand il s'aventure plus loin, à un système tout différent, celui dont il use dans la vie sociale quand il attribue à des intentions bonnes ou mauvaises, amicales ou hostiles, la conduite des autres hommes à son égard. S'il le fait, c'est à son insu. Il ne se l'avoue pas à lui-même. Mais le non-civilisé, qui ne dispose que d'une science inextensible, taillé à l'exacte mesure de l'action qu'il exerce sur la matière, ne peut pas jeter dans le champ de l'imprévisible une science virtuelle qui le couvrirait tout entier et qui ouvre tout de suite de larges perspectives à son ambition. Plutôt que de se décourager, il étend à ce domaine le système d'explication dont il use dans ses rapports avec ses semblables. Il y croira trouver des puissances amies. Il y sera exposé aussi à des influences malfaisantes. De toute manière, il n'aura pas affaire à un monde qui lui soit complètement étranger. Il est vrai que, si de bons et de mauvais génies doivent prendre la suite de l'action qu'il exerce sur la matière, ils paraîtront influencer déjà cette action elle-même. Notre homme parle comme s'il ne comptait nulle part, pas même pour ce qui dépend de lui, sur un enchaînement mécanique de causes et d'effets. Mais s'il ne croyait pas ici à un enchaînement mécanique, nous ne le verrions pas, dès qu'il agit, faire tout ce qu'il faut pour déclencher mécaniquement le résultat. Or, qu'il s'agisse de sauvage ou de civilisé, si l'on veut savoir le fond de ce qu'un homme pense, il faut s'en rapporter à ce qu'il fait et non pas à ce qu'il dit. Dans les livres si intéressants et si instructifs qu'il a consacrés à la mentalité primitive, M. Lévi-Bruhl insiste sur l'indifférence de cette mentalité aux causes secondes, sur son recours immédiat à des causes mystiques. Notre activité quotidienne, dit-il, implique une tranquille et parfaite confiance dans l'invariabilité des lois naturelles. Bien différente est l'attitude d'esprit du primitif. La nature au milieu de laquelle il vit se présente à lui sous un tout autre aspect. Tous les objets et tous les êtres y sont impliqués dans un réseau de participation et d'exclusion mystique. Et un peu plus loin. Ce qui varie dans les représentations collectives, ce sont les forces occultes auxquelles on attribue la maladie ou la mort qui sont survenues. Tantôt, c'est un sorcier qui est le coupable. Tantôt, l'esprit d'un mort. Tantôt, des forces plus ou moins définies ou individualisées. Ce qui demeure semblable, et on pourrait presque dire identique, c'est la préliaison entre la maladie et la mort d'une part et une puissance invisible de l'autre. À l'appui de cette idée, l'auteur apporte les témoignages concordants des voyageurs et des missionnaires et il cite les plus curieux exemples. Mais un premier point est frappant. C'est que, dans tous les cas allégués, l'effet dont on parle, et qui est attribué par le primitif à une cause occulte, est un événement concernant l'homme, plus particulièrement un accident arrivé à un homme, plus spécialement encore la mort ou la maladie d'un homme. De l'action de l'inanimé sur l'inanimé, à moins qu'il ne s'agisse d'un phénomène météorologique ou autre, dans lequel l'homme a pour ainsi dire des intérêts, il n'est jamais question. On ne nous dit pas que le primitif, voyant le vent courber un arbre, la vague rouler des galets, son pied même soulevé de la poussière, fasse intervenir autre chose que ce que nous appelons la causalité mécanique. La relation constante entre l'antécédent et le conséquent qu'il perçoit l'un et l'autre ne peut pas être sans le frapper. Elle lui suffit ici, et nous ne voyons pas qu'il y superpose, encore moins qu'il y substitue, une causalité mystique. Allons plus loin, laissons de côté l'effet psychique auquel le primitif assiste en spectateur indifférent. Ne peut-on pas dire, de lui aussi, que son activité quotidienne implique une parfaite confiance dans l'invariabilité des lois naturelles. Sans elles, il ne compterait pas sur le courant de la rivière pour porter son canot, sur la tension de son arc pour lancer sa flèche, sur la hache pour entamer le tronc de l'arbre, sur ses dents pour mordre ou sur ses jambes pour marcher. Il ne peut pas se représenter explicitement cette causalité naturelle. Il n'a aucun intérêt à le faire, n'étant ni physicien ni philosophe. Mais il a foi en elle, et il la prend pour support de son activité. Allons plus loin encore. Quand le primitif fait appel à une cause mystique pour expliquer la mort, la maladie ou tout autre accident, quelle est au juste l'opération à laquelle il se livre? Il voit, par exemple, qu'un homme a été tué par un fragment de rocher qui s'est détaché au cours d'une tempête. Nie-t-il que le rocher ait déjà été fendu, que le vent ait arraché la pierre, que le choc ait brisé un crâne? Évidemment non. Il constate, comme nous, l'action de ces causes secondes. Pourquoi donc introduit-il une cause mystique, telle que la volonté d'un esprit ou d'un sorcier, pour l'ériger en cause principale? Qu'on y regarde de près, on verra que ce que le primitif explique ici par une cause surnaturelle, ce n'est pas l'effet physique, c'est sa signification humaine, c'est son importance pour l'homme, et plus particulièrement pour un certain homme déterminé, celui que la pierre écrase. Il n'y a rien d'illogique, ni par conséquent de pré-logique, ni même qui témoigne d'une imperméabilité à l'expérience dans la croyance qu'une cause doit être proportionnée à son effet et qu'une fois constatée la fêlure des rochers, la direction et la violence du vent, chose purement physique et insoucieuse de l'humanité, il reste à expliquer ce fait capital pour nous qu'est la mort d'un homme. La cause contient éminemment les faits, disaient jadis les philosophes. Et si les faits ont une signification humaine considérable, la cause doit avoir une signification au moins égale. Elle est en tout cas de même ordre, c'est une intention. Que l'éducation scientifique de l'esprit le déshabitue de cette manière de raisonner, ce n'est pas douteux. Mais elle est naturelle. Elle persiste chez le civilisé, et se manifeste toutes les fois que n'intervient pas la force antagoniste. Nous faisons remarquer que le joueur qui mise sur un numéro de la roulette attribuera le succès ou l'insuccès à la veine ou à la déveine, c'est-à-dire à une intention favorable ou défavorable. Il n'en expliquera pas moins par des causes naturelles tout ce qui se passe entre le moment où il place l'argent et le moment où la bille s'arrête. Mais à cette causalité mécanique, il superposera à la fin un choix semi-volontaire qui fasse pendant au sien. L'effet dernier sera ainsi de même importance et de même ordre que la première cause, qui avait également été un choix. De ce raisonnement très logique, nous saisissons d'ailleurs l'origine pratique quand nous voyons le joueur esquisser un mouvement de la main pour arrêter la bille. C'est sa volonté de succès, c'est la résistance à cette volonté qu'il va objectiver dans la veine ou la déveine pour se trouver devant une puissance alliée ou ennemie et pour donner au jeu tout son intérêt. Mais bien plus frappante encore, est la ressemblance entre la mentalité du civilisé et celle du primitif quand il s'agit de faits tels que ceux que nous venons d'envisager, la mort, la maladie, l'accident grave. Un officier qui a pris part à la Grande Guerre nous disait qu'il avait toujours vu les soldats redouter les balles plus que les obus, quoique le tir de l'artillerie fût de beaucoup le plus meurtrier. C'est que par la balle, on se sent visé et que chacun fait malgré lui le raisonnement suivant. Pour produire cet effet, si important pour moi que serait la mort ou la blessure grave, il faut une cause de même importance, il faut une intention. Un soldat qui fut précisément atteint par un éclat d'obus nous racontait que son premier mouvement fut de s'écrier « comme c'est bête !» Que cet éclat d'obus projeté par une cause purement mécanique et qui pouvait atteindre n'importe qui ou n'atteindre personne, fut pourtant venu le frapper, lui et non pas un autre, c'était illogique au regard de son intelligence spontanée. En faisant intervenir la mauvaise chance, il eût manifesté mieux encore la parenté de cette intelligence spontanée avec la mentalité primitive. Une représentation riche de matière, comme l'idée d'un sorcier ou d'un esprit, doit sans doute abandonner la plus grande partie de son contenu pour devenir celle de la mauvaise chance. Elle subsiste cependant, elle n'est pas complètement vidée, et par conséquent, les deux mentalités ne diffèrent pas essentiellement l'une de l'autre. Les exemples si variés de mentalité primitive que M. Lévi-Brulle a accumulés dans ses ouvrages se groupent sous un certain nombre de rubriques. Les plus nombreux sont ceux qui témoignent, selon l'auteur, d'une obstination du primitif à ne rien admettre de fortuit. Qu'une pierre tombe et vienne écraser un passant, c'est qu'un esprit malin l'a détaché. Il n'y a pas de hasard. Qu'un homme soit arraché de son canot par un alligator, c'est qu'il a été ensorcelé. Il n'y a pas de hasard. Qu'un guerrier soit tué ou blessé d'un coup de lance, c'est qu'il n'était pas en état de parer, c'est qu'on lui avait jeté un sort. Il n'y a pas de hasard. La formule revient si souvent chez M. Lévi-Brulle qu'on peut la considérer comme donnant un des caractères essentiels de la mentalité primitive. Mais dirons-nous à l'éminent philosophe, en reprochant aux primitifs de ne pas croire au hasard, ou tout au moins en constatant comme un trait caractéristique de sa mentalité qu'il n'y croit pas, n'admettez-vous pas, vous, qu'il y a du hasard? Et en l'admettant, êtes-vous bien sûr de ne pas retomber dans cette mentalité primitive que vous critiquez, que vous voulez en tout cas distinguer essentiellement de la vôtre? J'entends bien que vous ne faites pas du hasard une force agissante. Mais si c'était pour vous un pur néant, vous n'en parleriez pas. Vous tiendriez le mot pour inexistant, comme la chose. Or, le mot existe et vous en usez, et il représente pour vous quelque chose, comme d'ailleurs pour nous tous. Demandons-nous ce qu'il peut bien représenter. Une énorme tuile arrachée par le vent tombe et assomme un passant. Nous disons que c'était un hasard. Le dirions-nous si la tuile s'était simplement brisée sur le sol? Peut-être, mais c'est que nous penserions vaguement alors à un homme qui aurait pu se trouver là, ou parce que, pour une raison ou pour une autre, ce point spécial du trottoir nous intéressait particulièrement, de telle sorte que la tuile semble l'avoir choisi pour y tomber. Dans les deux cas, il n'y a de hasard que parce qu'un intérêt humain est en jeu et parce que les choses se sont passées comme si l'homme avait été pris en considération, soit en vue de lui rendre service, soit plutôt avec l'intention de lui nuire. Ne pensez qu'au vent arrachant la tuile, à la tuile tombant sur le trottoir, au choc de la tuile contre le sol. Vous ne voyez plus que du mécanisme. Le hasard s'évanouit. Pour qu'il intervienne, il faut que, l'effet ayant une signification humaine, cette signification rejaillisse sur la cause et la colore, pour ainsi dire, d'humanité. Le hasard est donc le mécanisme se comportant comme s'il avait une intention. On dira peut-être que, précisément parce que nous employons le mot « quand les choses se passent comme s'il y avait eu intention », nous ne supposons pas alors une intention réelle. Nous reconnaissons au contraire que tout s'explique mécaniquement. Et ce serait très juste s'il n'y avait que la pensée réfléchie, pleinement consciente. Mais au-dessous d'elle est une pensée spontanée et semi-consciente qui superpose à l'enchaînement mécanique des causes et des effets, quelque chose de tout différent. Non pas, certes, pour rendre compte de la chute de la tuile, mais pour expliquer que la chute est coïncidée avec le passage d'un homme, qu'elle ait justement choisi cet instant. L'élément de choix ou d'intention est aussi restreint que possible. Il recule à mesure que la réflexion veut le saisir. Il est fuyant et même évanouissant. Mais s'il était inexistant, on ne parlerait que de mécanisme. Il ne serait pas question de hasard. Le hasard est donc une intention qui s'est vidée de son contenu. C'est plus qu'une ombre, mais la forme y est à défaut de la matière. Tenons-nous ici une de ces représentations que nous appelons réellement primitives, spontanément formées par l'humanité en vertu d'une tendance naturelle. Pas tout à fait. Si spontanée qu'elle soit encore, l'idée de hasard n'arrive à notre conscience qu'après avoir traversé la couche d'expériences accumulées que la société dépose en nous du jour où elle nous apprend à parler. C'est dans ce trajet même qu'elle se vide, une science de plus en plus mécanistique, expulsant d'elle ce qu'elle contenait de finalité. Il faudrait donc la remplir, lui donner un corps, si l'on voulait reconstituer la représentation originelle. Le fantôme d'intention deviendrait alors une intention vivante. Inversement, il faudrait donner à cette intention vivante beaucoup trop de contenu, la lester exagérément de matière pour obtenir les entités malfaisantes ou bienfaisantes auxquelles pensent les non-civilisés. Nous ne saurions trop le répéter, ces superstitions impliquent d'ordinaire un grossissement, un épaississement, quelque chose enfin de caricatural. Elles marquent le plus souvent que le moyen s'est détaché de sa fin. Une croyance d'abord utile, stimulatrice de la volonté, se sera transportée de l'objet où elle avait sa raison d'être à des objets nouveaux où elle ne sert plus à rien, où elle pourrait même devenir dangereuse. s'étant multipliée paresseusement par une imitation toute extérieure d'elle-même, elle aura pour effet maintenant d'encourager à la paresse. N'exagérons rien cependant. Il est rare que le primitif se sente dispensé par elle d'agir. Des indigènes du Cameroun s'en prendront uniquement aux sorciers si l'un des leurs a été dévoré par un crocodile. Mais M. Lévy Brulle, qui rapporte le fait, ajoute sur le témoignage d'un voyageur que les crocodiles du pays n'attaquent presque jamais l'homme. Soyons convaincus que là où le crocodile est régulièrement dangereux, l'indigène s'abstient comme nous d'entrer dans l'eau. L'animal lui fait alors peur, avec ou sans maléfice. Il n'en est pas moins vrai que, pour passer de cette mentalité primitive à des états d'âme qui seraient aussi bien les nôtres, il y a le plus souvent deux opérations à accomplir. Il faut d'abord supposer abolie toute notre science. Il faut ensuite se laisser aller à une certaine paresse, se détourner d'une explication qu'on devine plus raisonnable, mais qui exigerait un plus grand effort de l'intelligence et surtout de la volonté. Dans bien des cas, une seule de ces opérations suffit. Dans d'autres, nous devrons combiner les deux. Considérons par exemple un des plus curieux chapitres de M. Lévy Brulle, celui qui traite de la première impression produite sur les primitifs par nos armes à feu, notre écriture, nos livres, enfin ce que nous leur apportons. Cette impression nous déconcerte d'abord. Nous serions en effet tentés de l'attribuer à une mentalité différente de la nôtre. Mais plus nous effacerons de notre esprit la science, graduellement et presque inconsciemment acquise, plus l'explication primitive nous paraîtra naturelle. Voici des gens devant lesquels un voyageur ouvre un livre et à qui l'on dit que ce livre donne des informations. Ils ont conclu que le livre parle et qu'en l'approchant de leur oreille, ils percevront un son. Mais attendre autre chose d'un homme étranger à notre civilisation, c'est lui demander beaucoup plus qu'une intelligence comme celle de la plupart d'entre nous, plus même qu'une intelligence supérieure, plus que du génie. C'est vouloir qu'il réinvente l'écriture. Car s'il se représentait la possibilité de dessiner un discours sur une feuille de papier, il tiendrait le principe d'une écriture alphabétique ou plus généralement phonétique. Il serait arrivé du premier coup au point qui n'a pu être atteint chez les civilisés que par les efforts longtemps accumulés d'un grand nombre d'hommes supérieurs. Ne parlons donc pas ici d'esprits différents du nôtre. Disons simplement qu'ils ignorent ce que nous avons appris. Il y a maintenant, ajoutions-nous, des cas où l'ignorance s'accompagne d'une répugnance à l'effort. Tels seraient ceux que M. Lévy Brulle a classés sous la rubrique « Ingratitude des malades ». Les primitifs qui ont été soignés par des médecins européens ne leur en savent aucun gré. Bien plus, ils attendent du médecin une rétribution, comme si c'était eux qui leur avaient rendu le service. Mais n'ayant aucune idée de notre médecine, ne sachant pas ce qu'est une science doublée d'un art, voyant d'ailleurs que le médecin est loin de guérir toujours son malade, considérant enfin qu'il donne son temps et sa peine, comment ne se dirait-il pas que le médecin a quelque intérêt inconnu d'eux à faire ce qu'il fait? Comment aussi, plutôt que de travailler à sortir de leur ignorance, n'adopterait-il pas naturellement l'interprétation qui leur vient d'abord à l'esprit et dont ils peuvent tirer profit? Je le demande à l'auteur de la mentalité primitive et j'évoquerai un souvenir très ancien, à peine plus vieux cependant que notre vieille amitié. J'étais enfant et j'avais de mauvaises dents. Force était de me conduire parfois chez le dentiste, lequel sévissait aussitôt contre la dent coupable. Il l'arrachait sans pitié. Entre nous soit dit, cela ne me faisait pas grand mal, car il s'agissait de dents qui seraient tombées d'elles-mêmes. Mais je n'étais pas encore installée dans le fauteuil à bascule que je poussais déjà des cris épouvantables pour le principe. Ma famille avait fini par trouver les moyens de me faire taire. Bruyamment, dans le verre qui servirait à me rincer la bouche après l'opération, la sepsie étant inconnue en ces temps très lointains, le dentiste jetait une pièce de 50 centimes dont le pouvoir d'achat était alors de 10 sucres d'orge. J'avais bien 6 ou 7 ans et je n'étais pas plus sot qu'un autre. J'étais certainement de force à deviner qu'il y avait collusion entre le dentiste et ma famille pour acheter mon silence et que l'on conspirait autour de moi pour mon plus grand bien. Mais il aurait fallu un léger effort de réflexion et je préférais ne pas le donner, probablement par paresse, peut-être aussi pour n'avoir pas à changer d'attitude vis-à-vis d'un homme contre lequel, c'est le cas de le dire, j'avais une dent. Je me laissais donc simplement aller à ne pas penser, et l'idée que je devais me faire du dentiste se dessinait alors d'elle-même dans mon esprit en traits lumineux. C'était évidemment un homme dont le plus grand plaisir était d'arracher des dents et qui allait jusqu'à payer pour cela une somme de 50 centimes. Mais fermons cette parenthèse et résumons-nous. À l'origine des croyances que nous venons d'envisager, nous avons trouvé une réaction défensive de la nature contre un découragement qui aurait sa source dans l'intelligence. Cette réaction suscite au sein de l'intelligence même des images et des idées qui tiennent en échec la représentation déprimante ou qui l'empêchent de s'actualiser. Des entités surgissent qui n'ont pas besoin d'être des personnalités complètes. Il leur suffit d'avoir des intentions ou même de coïncider avec elles. Croyance signifie donc essentiellement confiance. L'origine première n'est pas la crainte, mais une assurance contre la crainte. Et d'autre part, ce n'est pas nécessairement une personne que la croyance prend pour objet d'abord. Un anthropomorphisme partiel lui suffit. Tels sont les deux points qui nous frappent quand nous considérons l'attitude naturelle de l'homme vis-à-vis d'un avenir auquel il pense, par cela même qu'il est intelligent, et dont il s'alarmerait en raison de ce qu'il y trouve d'imprévisible s'il s'en tenait à la représentation que la pure intelligence lui en donne. Mais telles sont aussi les deux constatations que l'on peut faire dans des cas où il ne s'agit plus de l'avenir mais du présent et où l'homme est le jouet de forces énormément supérieures à la sienne. De ce nombre sont les grands bouleversements, un tremblement de terre, une inondation, un ouragan. Une théorie déjà ancienne faisait sortir la religion de la crainte qu'en pareil cas la nature nous inspire. Primus in orbe Deos fecit timor. On est allé trop loin en la rejetant complètement. L'émotion de l'homme devant la nature est sûrement pour quelque chose dans l'origine des religions. Mais, encore une fois, la religion est moins de la crainte qu'une réaction contre la crainte. Elle n'est pas tout de suite croyance à des dieux. Il ne sera pas inutile de procéder ici à cette double vérification. Elle ne confirmera pas seulement nos précédentes analyses. Elle nous fera serrer de plus près ces entités dont nous disions qu'elles participent de la personnalité sans être encore des personnes. Les dieux de la mythologie pourront sortir d'elles, on les obtiendra par voie d'enrichissement. Mais on tirerait aussi bien d'elles, en les appauvrissant, cette force impersonnelle que les primitifs, nous dit-on, mettent au fond des choses. Suivons donc notre méthode habituelle. Demandons à notre propre conscience, débarrassée de l'acquis, rendue à sa simplicité originelle, comment elle réplique à une agression de la nature. L'observation de soi est ici fort difficile à cause de la soudaineté des événements graves. Les occasions qu'elle a de s'exercer à fond sont d'ailleurs rares. Mais certaines impressions d'autrefois, dont nous n'avons conservé qu'un souvenir confus et qui étaient déjà superficielles et vagues, deviendront peut-être plus nettes et prendront plus de relief si nous les complétons par l'observation que fit sur lui-même un maître de la science psychologique. William James se trouvait en Californie lors du terrible tremblement de terre d'avril 1906, qui détruisit une partie de San Francisco. Voici la bien imparfaite traduction des pages vraiment intraduisibles qu'il écrivit à ce sujet. Quand j'ai quitté Harvard pour l'université Stanford en décembre, le dernier au revoir ou peu s'en faut fut celui de mon vieil ami B, californien. J'espère, me dit-il, qu'ils vous donneront aussi un petit bout de tremblement de terre pendant que vous serez là-bas, de façon que vous fassiez connaissance avec cette toute particulière institution californienne. En conséquence, lorsque, couché mais encore éveillé, vers 5h30 du matin, le 18 avril, dans mon petit appartement de la cité universitaire de Stanford, je m'aperçus que mon lit commençait à osciller, mon premier sentiment fut de reconnaître joyeusement la signification du mouvement. « Tiens, tiens, me dis-je, mais c'est ce vieux tremblement de terre de B. Il est donc venu tout de même. » Puis, comme il allait crescendo, par exemple, pour un tremblement de terre, c'en est un qui se porte bien. Toute l'affaire ne dura pas plus de 48 secondes, comme l'observatoire Leake nous le fit savoir plus tard. C'est à peu près ce qu'elle me parut durer. D'autres crurent l'intervalle plus long. Dans mon cas, sensations et émotions furent si fortes qu'il ne put tenir que peu de pensées et nulle réflexion, nulle volition dans le temps qu'occupa le phénomène. Mon émotion était tout entière allégresse et admiration. Allégresse devant l'intensité de vie qu'une idée abstraite, une pure combinaison verbale, comme « tremblement de terre » pouvait prendre, une fois traduite en réalité sensible, est devenu l'objet d'une vérification concrète. Admiration devant le fait qu'une frêle petite maison de bois pût tenir en dépit d'une telle secousse. Pas l'ombre d'une peur, simplement un plaisir extrême, avec souhait de bienvenue. Je crie après, « Mais vas-y donc, et vas-y plus fort !» Dès que je pus penser, je discernais rétrospectivement certaines modalités toutes particulières dans l'accueil que ma conscience avait fait du phénomène. C'était chose spontanée et pour ainsi dire inévitable et irrésistible. D'abord, je personnifiais le tremblement de terre en une entité permanente et individuelle. C'était le tremblement de terre de la prédiction de mon ami B. Tremblement qui s'était tenu tranquille, qui s'était retenu pendant tous les mois intermédiaires pour enfin, en cette mémorable matinée d'avril, envahir ma chambre et s'affirmer d'autant plus énergiquement et triomphalement. De plus, c'est à moi qu'il venait en droite ligne. Il se glissait à l'intérieur, derrière mon dos. Et une fois dans la chambre, il m'avait pour lui tout seul, pouvant ainsi se manifester de façon convaincante. Jamais animation et intention ne furent plus présentes à une action humaine. Jamais non plus activité humaine ne fit voir plus nettement derrière elle, comme source et comme origine, un agent vivant. Tous ceux que j'interrogeais là-dessus se trouvèrent d'ailleurs d'accord sur cet aspect de leur expérience. Il affirmait une intention, il était pervers, il s'était mis en tête de détruire, il voulait montrer sa force, etc., etc. À moi, il voulait simplement manifester la pleine signification de son nom. Mais qui était cette « il » Pour quelques-uns, vraisemblablement, un vague pouvoir démoniaque. Pour moi, un être individualisé, le tremblement de terre de B. Une des personnes qui me communiquèrent leurs impressions s'était crue à la fin du monde, au commencement du jugement dernier. C'était une dame logée dans un hôtel de San Francisco à laquelle l'idée d'un tremblement de terre ne vint que lorsqu'elle se fut trouvée dans la rue et qu'elle entendit donner cette explication. Elle me dit que son interprétation théologique l'avait préservée de la peur et lui avait fait prendre la secousse avec calme. Pour la science, quand des tensions de l'écorce terrestre atteignent le point de rupture et que des strates subissent une modification d'équilibre, le tremblement de terre est tout simplement le nom collectif de tous les craquements, de toutes les secousses, de toutes les perturbations qui se produisent. Ils sont le tremblement de terre. Mais pour moi, c'était le tremblement de terre qui était la cause des perturbations. Et la perception de ce tremblement comme d'un agent vivant était irrésistible. Il avait une force dramatique de conviction qui emportait tout. Je vois mieux maintenant combien étaient inévitables les anciennes interprétations mythologiques de catastrophes de ce genre, et combien sont artificielles, comment vont, en sens inverse de notre perception spontanée, les habitudes ultérieures que la science imprime en nous par l'éducation. Il était simplement impossible à des esprits inéduqués d'accueillir des impressions de tremblement de terre autrement que comme des avertissements ou des sanctions surnaturelles. On remarquera d'abord que James parle du tremblement de terre comme d'un être individualisé. Il constate que le tremblement de terre se personnifie pour lui en une entité permanente et individuelle. Mais il ne dit pas qu'il y ait, Dieu ou démon, une personnalité complète capable d'actions diverses et dont le tremblement de terre serait une manifestation particulière. Au contraire, l'entité dont il s'agit est le phénomène lui-même, considéré comme permanent. Sa manifestation nous livre son essence. Elle a pour unique fonction d'être tremblement de terre. Il y a une âme, mais qui est l'animation de l'acte par son intention. Si l'auteur nous dit que jamais activité humaine ne fit voir plus nettement derrière elle un agent vivant, il entend par là que l'intention et l'animation semblaient appartenir au tremblement de terre comme appartiennent à un agent vivant situé derrière eux les actes que cet agent accomplit. Mais que l'agent vivant soit ici le tremblement de terre lui-même, qu'il n'ait pas d'autre activité, pas d'autre propriété, que ce qu'il est coïncide par conséquent avec ce qu'il fait, tout le récit en témoigne. Une entité de ce genre, dont l'être ne fait qu'un avec le paraître, qui se confond avec un acte déterminé et dont l'intention est immanente à cet acte même, n'en étant que le dessein et la signification consciente, est précisément ce que nous appelions un élément de personnalité. Il y a maintenant un autre point dont on ne manquera pas d'être frappé. Le tremblement de terre de San Francisco fut une grande catastrophe. Mais à James, placé brusquement en face du danger, il apparaît avec je ne sais quel air bonhomme qui permet de le traiter avec familiarité. « Tiens, tiens, c'est ce vieux tremblement de terre. » Analogue avait été l'impression des autres assistants. Le tremblement était pervers, il avait son idée, il s'était mis en tête de détruire. On parle ainsi d'un mauvais garnement avec lequel on n'a pas nécessairement rompu toute relation. La crainte qui paralyse est celle qui naît de la pensée que des forces formidables et aveugles sont prêtes à nous broyer inconsciemment. C'est ainsi que le monde matériel apparaît à la pure intelligence. La conception scientifique du tremblement de terre, à laquelle James fait allusion dans ses dernières lignes, sera la plus dangereuse de toutes, tant que la science, qui nous apporte la vision nette du péril, ne nous aura pas fourni quelques moyens d'y échapper. Contre cette conception scientifique, et plus généralement contre la représentation intellectuelle qu'elle est venue préciser, une réaction défensive se produit devant le péril grave et soudain. Les perceptions auxquelles nous avons affaire, et dont chacune est toute mécanique, se composent en un événement qui ressemble à quelqu'un, qui peut être un mauvais sujet, mais qui n'en est pas moins de notre monde, pour ainsi dire. Il ne nous est pas étranger. Une certaine camaraderie entre lui et nous est possible. Cela suffit à dissiper la frayeur, ou plutôt à l'empêcher de naître. D'une manière générale, la frayeur est utile comme tous les autres sentiments. Un animal inaccessible à la crainte ne saurait pas fuir ni se garer. Il succomberait bien vite dans la lutte pour la vie. On s'explique donc l'existence d'un sentiment tel que la crainte. On comprend aussi que la crainte soit proportionnée à la gravité du danger. Mais c'est un sentiment qui retient, qui détourne, qui retourne. Il est essentiellement inhibiteur. Quand le péril est extrême, quand la crainte atteindrait son paroxysme et deviendrait paralysante, une réaction défensive de la nature se produit contre l'émotion qui était également naturelle. Notre faculté de sentir ne pourrait certes pas se modifier, elle reste ce qu'elle était. Mais l'intelligence, sous la poussée de l'instinct, transforme pour elle la situation. Elle suscite l'image qui rassure. Elle donne à l'événement une unité et une individualité qui en font un être malicieux ou méchant peut-être, mais rapproché de nous, avec quelque chose de sociable et d'humain. Je demande au lecteur d'interroger ses souvenirs. Ou je me trompe fort, ou ils confirmeront l'analyse de James. Je me permettrai en tout cas d'évoquer un ou deux des miens. Le premier remonte à des temps très anciens, puisque j'étais tout jeune et que je pratiquais les sports, en particulier l'équitation. Voici qu'un beau jour, pour avoir croisé sur la route cette apparition fantastique qui était un bicycliste juché sur un haut vélocipède, le cheval que je montais prit peur et s'emporta. Que cela pût arriver, qu'il y eut, en pareil cas, certaines choses à faire ou du moins à tenter, je le savais, comme tous ceux qui ont fréquenté un manège. Mais l'éventualité ne s'était jamais présentée à mon esprit que sous forme abstraite. Que l'accident se produisit effectivement, en un point déterminé de l'espace et du temps, qu'il m'arriva à moi plutôt qu'à un autre, cela me paraissait impliquer une préférence donnée à ma personne. Qui donc m'avait choisi? Ce n'était pas le cheval. Ce n'était pas un être complet, quel qu'il fût, bon ou mauvais génie. C'était l'événement lui-même, un individu qui n'avait pas de corps lui appartenant, car il n'était que la synthèse des circonstances. Mais il avait son âme très élémentaire, et qui se distinguait à peine de l'intention que les circonstances semblaient manifester. Il me suivait dans ma course désordonnée, malicieusement, pour voir comment je m'en tirerais, et je n'avais d'autre souci que de lui montrer ce que je savais faire. Si je n'éprouvais aucune frayeur, c'est justement parce que j'étais absorbée par cette préoccupation. C'est aussi, peut-être, parce que la malice de mon singulier compagnon n'excluait pas une certaine bonhomie. J'ai souvent pensé à ce petit incident et je me suis dit que la nature n'aurait pas imaginé un autre mécanisme psychologique si elle avait voulu, en nous dotant de la peur comme d'une émotion utile, nous en préserver dans les cas où nous avons mieux à faire que de nous y laisser aller. Je viens de citer un exemple où le caractère bon enfant de l'accident est ce qu'il y a de plus frappant. En voici un autre, qui met peut-être mieux en relief son unité, son individualité, la netteté avec laquelle il se découpe dans la continuité du réel. Encore enfant, en 1871, au lendemain de la guerre, j'avais, comme tous ceux de ma génération, considéré une nouvelle guerre comme imminente pendant les 12 ou 15 années qui suivirent. Puis, cette guerre nous apparut tout à la fois comme probable et comme impossible, idée complexe et contradictoire qui persista jusqu'à la date fatale. Elle ne suscitait d'ailleurs dans notre esprit aucune image, en dehors de son expression verbale. Elle conserva son caractère abstrait jusqu'aux heures tragiques où le conflit apparut comme inévitable, jusqu'au dernier moment alors qu'on espérait, contre tout espoir. Mais lorsque, le 4 août 1914, dépliant un numéro du matin, je lus en gros caractère « L'Allemagne déclare la guerre à la France », j'eus la sensation soudaine d'une invisible présence que tout le passé aurait préparée et annoncée à la manière d'une ombre précédant le corps qui la projette. Ce fut comme si un personnage de légende, évadé du livre où l'on raconte son histoire, s'installait tranquillement dans la chambre. À vrai dire, je n'avais pas affaire au personnage complet. Il n'y avait de lui que ce qui était nécessaire pour obtenir un certain effet. Il avait attendu son heure, et sans façon, familièrement, il s'asseyait à sa place. C'est pour intervenir à ce moment, en cet endroit, qu'il s'était obscurément mêlé à toute mon histoire. C'est à composer ce tableau, la pièce avec son mobilier, le journal déplié sur la table, moi debout devant elle, l'événement imprégnant tout de sa présence, que visaient 43 années d'inquiétude confuse. Malgré mon bouleversement, et bien qu'une guerre, même victorieuse, m'apparût comme une catastrophe, j'éprouvais ce que dit James, un sentiment d'admiration pour la facilité avec laquelle s'était effectué le passage de l'abstrait au concret. Qui aurait cru qu'une éventualité aussi formidable pût faire son entrée dans le réel avec aussi peu d'embarras. Cette impression de simplicité dominait tout. En y réfléchissant, on s'aperçoit que si la nature voulait opposer une réaction défensive à la peur, prévenir une contracture de la volonté devant la représentation trop intelligente d'un cataclysme, aux répercussions sans fin, elle susciterait précisément entre nous et l'événement simplifié, transmué en personnalité élémentaire, cette camaraderie qui nous met à notre aise, nous détend et nous dispose à faire tout bonnement notre devoir.